Snackerman, vous êtes en vacances.
Réservez maintenant votre last minute en famille dans un resort SunConnect.
La première.
Il est 11h. Et on s'informe avec vous, Marie Van Kutsem.
Bonjour à tous. 6 ans de prison pour Oscar Pistorius. L'ancien sportif paralympique vient d'être condamné en appel pour le meurtre de sa compagne Riva Steenkamp. C'était en 2013. Il avait été condamné en première instance à 5 ans de prison pour homicide. Une peine que la famille de la victime avait jugée trop légère. Trop légère aussi pour les associations de défense des droits des femmes. Lors du procès, le ministère public avait requis 15 ans de réclusion en appel. Donc ce sera finalement 6 ans, la juge estimant qu'une longue peine dans cette affaire ne servirait pas la justice. C'est une publication qui était attendue depuis 7 ans au Royaume-Uni. Le rapport de la commission d'enquête sur l'engagement controversé du pays dans la guerre en Irak en 2003, ce rapport est publié aujourd'hui. Ses conclusions promettent d'être sévères envers l'ex-premier ministre Tony Blair. 179 soldats britanniques sont morts dans cette guerre et les familles des soldats veulent en savoir plus. Elles estiment que Tony Blair a trompé la population britannique en disant qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, ce qui n'a jamais été avéré. Un programme pilote dans les prisons de Thaïlande. Le pays va séparer les prisonniers transgenres des autres. Un objectif, les protéger des abus et des maltraitances. Une première expérience allant dans ce sens vient d'être lancée dans la prison à Minburi, c'est dans la capitale Bangkok, par une association de protection des droits de l'homme. Chez nous, la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Bruxelles termine le premier volet de ses travaux. Il y aura des discussions à huis clos ce matin entre experts et députés. Et puis cet après-midi, une audition très attendue, celle des ministres de la Santé et de l'Intérieur. L'intervention des services de secours sera au cœur des questions des députés. Au chapitre sportif, le Tour de France attaque sa première étape de montagne aujourd'hui, 216 km entre Limoges et le Luyoran. Peter Sagan est toujours en jaune. En tennis, ce sont les quarts de finale messieurs, avec notamment Roger Federer, Andy Murray ou encore Thomas Berdych sur les courts. Et enfin, ce soir, place au football, Portugal-Pays de Galles, première demi-finale de l'Euro. Le coup d'envoi, ce sera à 21h. Et la France face à l'Allemagne, ce sera demain. Voilà pour les infos, 11h02.
Toute l'info est sur rtbf.be.
Benjamin Leupart, on vous retrouve, c'est Globecrocker.
Oui, Globecrocker, c'est l'émission des voyageurs qui changent de vie en voyage, Marie. Tout un programme.
En juillet chez Ego, profitez de soldes jusqu'à moins 60% sur nos cuisines d'exposition. Ego, la cuisine de ma vie. Globe Crocker, jusqu'à midi sur la première.
Le vin a noyé plus de gens que l'eau. C'est un proverbe anglais. Hello on the premiere, it is Globe Crocker, l'émission des voyageurs bouleversants, puisqu'ils nous racontent leur changement de vie au détour d'un voyage. Tout l'été ensemble, on s'amuse chaque semaine à réaliser un tour du monde, au rythme donc d'un continent par jour. Et ce, en compagnie de voyageurs, comme il en existe beaucoup, et pourtant, ils sortent des sentiers battus. Pourquoi ? Eh bien, nos guides, à nous, ils ont souvent accepté de se perdre, ce qui n'est pas banal pour un guide, mais qui est essentiel pour un voyageur qui est prêt à se laisser bouleverser. C'est sur la table de Globe Crocker, on prend nos petites habitudes et on dépose les petits objets souvenirs glanés par nos Globe Crocker. Ensemble, on les fait parler et promis, si ce sont des instruments de musique, on les fera sonner. Parce qu'on aime bien aussi la musique de voyage en Globe Crocker et puis les lectures aussi et les écritures nomades. Bref, tout un dispositif sur notre table d'orientation pour comprendre comment nos voyageurs ont perdu le Nord pour leur destination. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un radio gaga, un homme de radio qui a fait le pari de séduire sa belle italienne grâce au Swinging London. C'était pas gagné d'avance. Aujourd'hui, la belle des Abruzzes est une addicte des brumes de la Tamise. I think I love you more than you like me. À nous les streets de London.
11h midi. Benjamin Leupart.
Globe Crocker.
Sur la première.
Nous partons aujourd'hui pour Londres. Située dans le sud-est de la Grande-Bretagne, c'est la capitale et la plus grande ville du Royaume-Uni. Dans la mode et dans l'art, elle est toujours sur le devant de la scène. L'ambiance cosmopolite lui donne un petit air de Babylone des temps modernes. Big Ben est votre hôte d'accueil. Encastré dans la Clock Tower du Parlement de Westminster, l'horloge de 16 tonnes flatte votre arrivée à coups de carillon amical. Aussi moderne que traditionnelle, Londres est un vrai paradoxe. Et c'est là la clé de son succès. Les monuments royaux, La relève de la garde, le tea time et le théâtre dans la lignée de Shakespeare côtoient les gratte-ciels et les banques de la City, troisième place financière du monde. Après un English breakfast ou une assiette de fish and chips, vous êtes prêt pour affronter la ville. Il y a tant à faire et à voir. À 135 mètres de hauteur, via le London Eye, ou les pieds sur terre pour voir les statues de cire de Madame Tussaud, ou encore la cathédrale Saint-Paul et le palais de Kensington. Découvrir les momies au British Museum, démarrer une session shopping sur Oxford Street, se balader sur les quais de la Tamise, tenter de mettre un nom sur les chefs-d'œuvre du National Gallery, ou à moins que vous ne passiez par Camden. C'est So London, son marché aux puces, ses excentriques londoniens et ses vitrines de chaussures délirantes. Vous entendez? Je pense que c'est Londres qui vous appelle.
Eh ben voilà, on a fait le tour. Bonjour Olivier Mock.
Bonjour.
Vous êtes notre guide à Londres aujourd'hui.
Ben, je vais essayer.
Ça part bien avec The Clash.
Tout à fait. En termes de musique, on est gâté à Londres.
Oui, on est servi. D'ailleurs, on va se gaver avec vous. Vous êtes un grand connaisseur de musique. Votre pédigré de voyageur avant tout, hein, parce qu'après on va passer à votre boulot. Mais votre pédigré de voyageur tourne autour de justement l'addiction pour Londres. Ça a commencé en 2008, mais tout ça remonte en fait à 1985 et une brouette, enfin, par là, autour d'un voyage de classe comme tout le monde.
Effectivement. Donc j'ai découvert Londres par un voyage de classe alors que j'avais 15 ans et ça a été un coup de foudre assez immédiat.
C'est ça.
Et il m'a fallu attendre de nombreuses années pour y retourner parce que j'ai dans la vie un énorme défaut, c'est que je suis très fidèle et très amoureux de ma femme et je la connais depuis 1988. Et donc...
Et 3 ans plus tard.
Voilà.
Mais revenons quand même à ce premier contact avec Londres 1985. C'est quoi les premières impressions quand vous arrivez avec vos tartines dans un papier alu et votre bouteille d'eau? Qu'est-ce qui se passe?
Quelque chose de totalement différent à quelques heures de route de la Belgique. Des bâtiments complètement différents, une architecture différente, mais une mentalité, une ambiance différente. On est directement à la descente du car, puisque ce premier voyage avait été fait avec la malle et en autocar, eh bien, dès qu'on met le pied en dehors du car sur le sol de Londres, on est happé par une espèce d'ambiance qui existe. On est vraiment enveloppé comme dans une couverture.
D'abord, il faut regarder du bon côté quand on traverse.
Effectivement, mais c'est écrit sur la route.
C'est écrit par terre. Et ça ensuite, c'était genre programme au pas de charge. On a Madame Tussaud à faire.
Cette première année, c'était un programme au pas de charge et pas Madame Tussaud, bien heureusement. le British Museum, évidemment, et puis deux, trois choses. Mais on était resté que 4 ou 5 jours sur place, je ne saurais plus dire, mais effectivement, ça a été au pas de charge. On avait visité les studios de la BBC notamment, mais une pièce de théâtre également, puisqu'on partait avec des profs d'anglais forcément, qui avaient pour but de nous inculquer la langue de Shakespeare. Mais c'est vrai que le programme était assez au pas de course. Ouais.
15 ans, Londres, 1985. Aujourd'hui, le temps a passé. Hein. On est passé par votre amoureuse que vous rencontrez 3 ans plus tard. Mais en gros, pour dire un peu qui vous êtes aussi par ailleurs, vous êtes un homme de radio au départ, et puis c'est une précision importante, hein, parce que ça va jouer un rôle important, le son dans votre love story avec la capitale du Royaume-Uni. Vous êtes spécialisé dans la communication externe. Vous vous définissez comme un communicateur de terrain, ceinture noire de réseaux sociaux. Vous êtes bien tombé à Londres.
Oui, tout à fait. Effectivement, pour ça, oui. Les réseaux sociaux sont partout. Le Wi-Fi est partout. C'est d'une facilité déconcertante.
On doit faire un petit crochet pour comprendre votre histoire d'amour avec Londres. On doit passer par les Abruzzes.
Exact. Je vous l'ai dit, je suis amoureux de ma compagne depuis de nombreuses années. Et elle, en tant qu'Abruzzaise, en tant qu'Italienne, était plutôt méditerranée. Donc ça a été très difficile pour moi d'essayer de l'amener à Londres. Et finalement, ça s'est fait vraiment autour d'une négociation ardue en 2008. Donc on est beaucoup d'années plus tard par rapport à 1985 ou 1988. C'était un deal. On va quelques jours dans les Abruzzes et on fait un crochet au retour par Londres.
Et ce sera ça le grand bouleversement de vos vies. Est-ce que vous allez réussir à convaincre votre belle Italienne de l'intérêt de la ville de Londres? On va se replonger un petit peu dans l'ambiance que vous aviez en tête lorsque vous prépariez vos bagages à 15 ans pour ce voyage scolaire. Vous écoutiez ceci. Évidemment, hein, The Kinks, You Really Got Me en 1964,
ça ne nous
c'est
pas.
Une des musiques qui aurait pu vous accompagner.
C'est la grande époque du Swinging London, de la British Invasion, tous ces groupes anglais qui ont déferlé sur l'Europe d'abord et puis sur les États-Unis par la suite. Hein. Bon, les Beatles, évidemment, les Rolling Stones, les Animals, les Moody Blues, Herman's Hermits.
Herman, oui,
il y en a un paquet.
No Milk Today.
Il y en a un paquet, c'était vraiment une grande période musicale.
pouvait pas se tromper. Hein.
Non.
Bon, on les confond tous un petit peu, attention. Hein.
Ça dépend, quand on connaît un peu, non.
Et donc ça, c'est 1985, vous pliez vos petits bagages, vous faites vos tartines et tout ça, vous arrivez et c'est le voyage scolaire. Évidemment, par la suite, même s'il y a un grand laps de temps qui va s'écouler avant que vous n'y retourniez, 23 ans à vrai dire, ben, vous avez un petit peu pris la mesure de la musique locale et vous écoutez plutôt encore un monument, mais ceci. Clapton.
Clapton is God, c'est écrit sur les murs de Londres.
Évidemment, avec Leila.
Leila, you got me on my knees.
Vous l'avez entendu là-bas ?
Malheureusement, bah, je l'ai entendu là, mais pas en live malheureusement. Mais c'est vrai que je connaissais Clapton de nom et je l'ai vraiment découvert en Angleterre, son univers. Je connaissais peut-être deux, trois chansons de Clapton qu'on entendait fréquemment, notamment celle qu'il a écrite en hommage à son gamin qui est décédé, Tears in Heaven. Mais je suis vraiment entré dans l'univers d'Eric Clapton à Londres. Pas seulement de Clapton, aussi de les Who, qui est aussi un groupe des années 60-70, un groupe de rock pur, que je connaissais de nom, de réputation, comme certaines personnes aussi par les génériques de certaines séries télévisées américaines, mais je suis rentré plus loin dans l'histoire du groupe.
Ah, on sent l'homme de radio, hein, vous avez des références, c'est bien.
Merci.
On va essayer de comprendre, hein, ce qui s'est passé pour que vous retourniez 23 ans plus tard, cette fois-ci avec votre dulcinée à Londres. Et puis on va la découvrir, cette ville, avec vos yeux. Quand vous la découvrez en couple, vous la découvrez en quelques mots. Hein. C'est quoi la première impression lorsque vous arrivez à deux ? D'abord, vous arrivez autrement qu'en bus.
Oui, tout à fait. On arrive à Saint-Pancras, donc par l'Eurostar. Et cette fois où on la découvre ensemble pour la première fois, eh bien, j'ai l'impression d'y être venu hier, en fait. Parce que...
qu'on n'oublie pas.
À première vue, elle n'a pas changé. Alors que si, elle a énormément changé. Mais dès que j'arrive, que je sors de la gare, je retrouve cette ambiance, je retrouve ces choses qui me plaisaient.
Eh bien, on va faire un tour en amoureux avec vous tout à l'heure dans Londres, juste après Without You, Oh Wonder. C'était en 2015.
without you. Can't pick up the phone without you. I'm a little bit lost without you. And I'm digging down holes without you. Can't be on my own without you. I'm a little bit lost without you. Without you. Without you. Without you. I'm a little bit lost without you. Without you. And I'm digging down holes without you. Can't be on my own without you. I'm a little bit lost without you.
Without You, Oh Wonder en 2015. On est à Londres ce matin sur la première avec notre guide qui n'est autre qu'Olivier Mock. On y est avec son amoureuse et on y reste.
Globe Crocker sur la première.
Ce week-end, vous allez à un spectacle comique ? Ou bien à la mer ? Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be.
Le train.
Dans un monde qui change, il est temps d'investir durablement. Savez-vous qu'un investissement durable peut donner plus d'impact à votre argent ? Un impact financier. Car pour BNP Paribas Fortis Private Banking, un tel investissement peut se montrer aussi rentable qu'un investissement traditionnel. Mais aussi un impact social et écologique, car les entreprises dans lesquelles vous investissez ont une politique éthique et respectueuse de l'environnement. Contactez votre private banker chez BNP Paribas Fortis ou surfez sur investirpourdemain.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change.
Cet été avec les forfaits Voomobile, profitez d'un smartphone comme le Huawei P8 Lite pour 1 euro seulement avec l'option smartphone. 1 euro, c'est-à-dire l'équivalent de 2 mètres en jet ski. Ce qui n'est pas cher pour un smartphone.
Découvrez notre gamme dans votre boutique Voo ou sur voomobile.be. Il est temps de penser à Voomobile. Offre soumise à condition, option smartphone disponible dès 6 euros par mois.
La première présente, My Body is a Cage, une exposition sur les multiples statures du corps humain dans l'art contemporain. Avec des œuvres de Nan Goldin, Giuseppe Pennone, Yves Klein, César et d'autres artistes phares de la collection du Musée d'art contemporain de Marseille. À découvrir au Grand Ornu jusqu'au 25 septembre. Info max.be.
J'adore sentir le barbecue grillé dans le jardin.
Et ça sent encore meilleur quand sur le barbecue, il y a nos bonnes brochettes de poulet. Un petit.
Oui, monsieur Marquis, qu'elles sont bonnes. Poulet nature, poivron ou ananas. Vous sentez ? Ça sent la promo !
Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos brochettes de poulet nature, poivron ou ananas sont en 3 plus 1 gratuites.
Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez.
La première et la deux présentent
le 40e Bruxelles Folk and Jazz Festival. 14 groupes, plus de 100 artistes sur deux scènes et le Bruxelles Kids Festival.
Avec musique, cirque et animation.
Dans le cadre féerique du Théâtre de Verdure, près de l'Atomium, les samedis 9 et dimanche 10 juillet.
Info, bruxelles.be.
Avec la Libre.
RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessibles où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies.
Globe Crocker, jusqu'à midi sur la première. Globe Crocker, sur la première.
On est à Saint-Pancras. Vous découvrez un London qui vous est familier.
Oui, tout à fait.
Et la mission que vous avez maintenant, c'est convaincre votre dulciné que cette ville est vraiment un incontournable.
Je sors encore effectivement, quand on sort de la gare, quelques réticences. Elle est dans une grande ville, la mer est très loin, alors que quand on va dans les Abruzzes chez elle, la mer est en dessous des fenêtres. Donc je me dis, ça ne va pas être gagné pour la convaincre.
Il y a de la concurrence.
Il y a de la concurrence, mais une chose qui a joué pour moi, c'est qu'on est aussi bien que moi fan de musées. Et à Londres, les musées ont été mon allié.
Saint-Pancras, elle était vachement récente quand vous arrivez à ce moment-là.
Elle avait quand même déjà quelques heures de vol. La gare date du 19e siècle. Elle a été rénovée pour l'Eurostar, mais elle date du 19e siècle.
Et alors, film dedans, publicité à n'en plus finir. Enfin, c'est un lieu qu'on connaît, même cinématographiquement.
Une image qui me reste énormément et qu'on ne voyait pas, alors que maintenant on voit ça quasiment partout dans la gare. Vous descendez du train, donc vous êtes toujours dans la gare et vous êtes accueilli au son d'un piano. Et là, il y a deux pianos dans Saint-Pancras. c'est la première fois que, alors qu'on a quand même voyagé pas mal, hein, on a fait Barcelone, on a fait Rome, on a fait Paris évidemment, enfin plein d'autres villes. On n'avait jamais entendu ça, alors que maintenant c'est quelque chose qui se généralise dans toutes les gares, y compris ici à Bruxelles. Des pianos, on en voit partout. Et bien à Londres, j'ai vu ça pour la première fois en 2008, et c'est vraiment un accueil assez sympa.
Et est-ce que vous avez eu du bol? Parce qu'il nous arrive de passer par le hall de la gare du Midi à Bruxelles, où il y a également un piano, mais qui n'est pas toujours utilisé, ou qui n'est pas toujours, mis à disposition de gens qui savent jouer. Là, vous arrivez au son de quoi, vous vous souvenez?
Je ne saurais plus dire au son de quoi, mais c'était quelqu'un de très doué, en tout cas, ouais. La musique. Je ne saurais plus dire ce que c'était comme... Je me demande si c'était pas de Elton John, mais je suis pas sûr.
Ça aurait été fort.
Oui, c'était pas Elton John qui jouait, la musique était d'Elton John, mais le gars jouait très très bien, effectivement.
Est-ce que quand vous arrivez, Olivier Mock, avec Alida à Saint-Pancras, vous avez une idée derrière la tête, sachant qu'elle aime les musées, vous aussi, c'est bien parti, mais vous avez un programme dans la tête pour la séduire?
Les chaussures.
Bien vu.
Voilà, bah oui, voilà, ma compagne, ma chérie est très folle de chaussures, je le suis moi-même, donc je me suis dit, voilà, un terrain d'entente, un deuxième terrain d'entente après les musées, donc c'était préparé hein, quand même. On restait très peu temps cette fois-là, nous sommes restés malheureusement que 3 jours sur place, donc il a aussi fallu goupiller le programme pour inclure des musées, des chaussures.
Et à propos de chaussures, il y a plein d'objets que vous avez eu la gentillesse de déposer sur la table de Globe Crocker, on va les passer en revue tout à l'heure, mais il y a des objets que vous n'avez pas posés sur la table, puisqu'ils sont sous la table.
Ils sont sous la table, oui.
Ces objets sont même à vos pieds, qu'est-ce que c'est?
C'est une paire de baskets roses, voilà, c'est assez bizarre, mais moi j'ai toujours aimé le rose, pour un gars, en plus un gars assez carré.
Oui, beau bébé, attention.
Voilà, donc c'est assez bizarre. Et donc je rêve de basket rose depuis des années. Et j'ai cherché pendant des mois et des mois en Belgique. On me répondait, écoutez, monsieur, basket rose pour un homme, on pourrait être 44-45, ça n'existe pas. Et à Carnaby Street, en plein cœur de Londres, je suis rentré dans un magasin en me disant, est-ce que vous auriez des chaussures roses, des baskets roses? Et on m'a dit, oui, mais quelle rose? Avec un petit liseré blanc, un liseré bleu, quelle pointure? 44, 47,
voilà.
48.
Après la musique, après les chaussures, d'accord. Donc la mode très contrastée, très péchue. Elle a trouvé son bonheur aussi là-bas?
Ah ouais, tout à fait.
Avant ou après vous? C'est la question piège, ça.
Avant.
Ah oui,
avant.
Évidemment.
Avant.
Et alors?
Il ne se passe plus une fois, donc on va à Londres 3-4 fois par an. Il ne se passe pas une fois sans qu'elle ne revienne avec une paire de chaussures.
D'accord.
Donc là... on a une armoire, un placard à chaussures, mais monstrueusement immense.
Donc Londres, destination de shopping, ça on le savait, mais à ce point-là, ça devient aussi une addiction.
Ouais.
Vous filez directement au musée lorsque vous arrivez?
On fait accrocher par l'hôtel. La première année, c'était un hôtel tout à fait classique. Et puis effectivement...
Ah, un bon plan?
Oui, des bons plans, j'en ai pour loger à Londres, puisque j'entends très souvent dire que Londres est cher. Eh bien, si vous partez dans des périodes de congés scolaires, je vous conseille tout simplement de vous renseigner dans les campus universitaires. Il y a plein d'universités à Londres, et ils mettent tous les logements à disposition des voyageurs, et c'est extrêmement bon marché.
Est-ce que c'est compliqué?
Non, c'est pas compliqué. Site internet, réservation, et même de plus en plus maintenant chez certaines agences de voyage ici en Belgique qui proposent la formule.
Vous voulez bien qu'on parcourt certains des quartiers? Vous disiez en préparant cette émission que faire le tour de Londres, c'est faire le tour du monde.
Oui, tout à fait. En quelques minutes, on passe de Chinatown, donc de la Chine, à un quartier italien, un quartier Bangladesh du côté de Brick Lane, l'Angleterre évidemment. Et puis quand on remonte du côté de Camden, on est dans une partie peut-être un peu plus écossaise aussi. Il y a pas mal d'Écossais par là, du côté de Camden, Kentish Town et compagnie. Donc oui, on passe vraiment d'un endroit à l'autre. Au gré des odeurs, au gré des musiques aussi, d'ambiance dans les rues. Il y a beaucoup de musique dans les rues à Londres.
On commence à bien sentir les ingrédients qui font votre passion pour Londres. Donc il y a de la musique, il y a des parcs, il y a des musées. On va faire un tour tout à l'heure dans Hyde Park avec vous. Vous parliez de Brick Lane. On est où là?
Brick Lane, on est dans l'est du Grand Londres, enfin de l'Inner Londres. Donc Londres est divisée en une partie extérieure, une partie intérieure. C'est une ville, à titre d'exemple, elle est 15 fois plus étendue que Paris. Ça peut donner quand même une idée de la dimension de Londres. Et donc, dans l'est de l'Inner Londres, du Londres intérieur, eh bien, se trouve Whitechapel, le quartier qui est tristement célèbre pour pour Jack l'Éventreur. Et bien juste au-dessus se trouve Brick Lane, vraiment un petit quartier sympa entre Shoreditch et Whitechapel, avec des marchés, des restaurants indiens, Bangladesh.
C'est ça, vous disiez là on est plutôt au Bangladesh ou en Inde.
Tout à fait, tout à
partout,
fait.
Ou bien c'est juste
c'est vraiment assez généralisé. Brick Lane est une rue qui est assez longue, finalement très étroite mais très très longue, et de deux côtés ce sont des restaurants et des magasins indiens et bangladais.
Alors l'ambiance est plutôt street food?
L'ambiance est très street food, surtout le dimanche. Quand vous allez du côté de Brick Lane le dimanche, eh bien, il y a des animations de rue, un marché vintage aussi, des commerçants qui sortent des échoppes dans la rue, et on vit dans la rue le dimanche. qu'il fasse beau ou qu'il fasse moins beau, eh bien on vit dans la rue. Au son de musiciens de rue, notamment des gens qui ont énormément de talent, et aussi aux odeurs de la street food. Et street food vraiment très, très multiculturel.
Mais il faut connaître, non ? Parce que ça peut être très, très, comment dire, surprenant ?
Ça peut être très surprenant. La cuisine tibétaine est très bonne, mais il faut avoir un palais accroché.
Quand vous faites Londres, vous la faites plutôt à pied,
ouais.
À l'aise ?
Ah oui, ouais, à pied, éventuellement en bus quand on est un peu fatigué en fin de journée, mais certainement pas en métro, certainement pas en taxi non plus.
Et vous perdez volontiers ?
On se perd volontiers, évidemment, c'est le meilleur moyen de découvrir une ville.
Bien sûr, on se perd volontiers. Eh bien, on va se perdre encore dans les rues de Londres, juste après Baker Street, tiens. Ce sera Jerry Rafferty, évidemment, en 1900, ça remonte, 78. Baker Street, Jerry Rafferty, 1978. Tiens, Baker Street, on est à Londres ce matin dans la première et ça nous met la puce à l'oreille.
Globe Crocker
sur la première.
Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be.
La Chimay dorée, caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été.
Chimay, les accords bières et fromages depuis 1876.
Coucou, c'est moi, Hip. Vous voulez profiter de votre terrasse pour un prix vraiment vert ? Recevez maintenant, bam ! 50% de réduction sur tous les meubles de jardin de votre hypermarché Carrefour. Action valable jusqu'à épuisement du stock.
Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus.
Voir conditions en magasin.
La première présente Photorealism 50 Years of Hyper-Realistic Painting. Pour la première fois en Belgique, le musée d'Ixelles propose une expo révélant 50 ans de peinture hyper réaliste. Dans le sillage du pop art, trois générations d'artistes américains et européens sèment le trouble. Réalité ou fiction, peinture ou photographie. Photorealism au musée d'Ixelles jusqu'au 25 septembre.
Avec nous, l'euro est bleu, blanc, but! Vivez les demi-finales de l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Portugal, Pays de Galles, à suivre en direct ce mercredi sur la 2, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous.
La première,
11h midi,
Globe Crocker avec Benjamin Leupart. Globe Crocker jusqu'à midi sur la première.
Olivier Mock, on est avec vous ce matin dans les rues de Londres. On s'est baladé sur Brick Lane et on a mangé des choses extrêmement piquantes en regardant
pas que mais il y en a.
En regardant les brocantes, en écoutant les musiciens et c'est à pied qu'on va se perdre dans la ville avec vous. Vous êtes fan de musique, vous êtes fan de musée et vous êtes fan de parc.
Fan de parc de Londres. Effectivement, je pense que Londres est une ville qui est plus que gâtée en termes de parcs. Ils sont immenses, ils sont superbes, ils sont. Il y a de la vie dedans. Les Londoniens vivent dans leur parc, vivent avec leur parc, que ce soit le matin pour faire un jogging, que ce soit sur la pause de midi pour aller manger, que ce soit pour aller s'installer et lire dans les parcs. Il y a énormément de lecteurs dans les parcs de Londres, y compris moi.
Oui, vous êtes un grand, grand lecteur, on va voir ça. Vous disiez aussi, c'est pas n'importe quel parc, il n'y a pas que des canards, il y en a.
Ouais.
Mais il n'y a pas que des canards, il y a même carrément des animaux un peu de plus grande taille.
Oui, si vous allez dans l'ouest de Londres, il y a des anciens parcs de royaux, et là on trouve c'est quasiment un zoo en plein air. On trouve des faons, des biches, on trouve évidemment des écureuils, tout type d'animaux.
Enfin, vous avez dit dessert quand même.
Dessert, oui, dessert.
Vous êtes tombé nez à nez avec un cerf ?
Oui, on est tombé nez à nez avec un cerf, mais enfin, il a vite détalé. Donc,
c'est déjà du bon parc pour avoir du cerf.
Oui, ce sont des très grands parcs. Hyde Park, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de cerf dans Hyde Park, il n'y a que des écureuils, des oiseaux et des canards et des cygnes. Mais Hyde Park, celui vraiment que je connais le mieux, fait déjà 142 arts, c'est immense. Donc, c'est pas le plus grand.
Et c'est pas le plus grand. Ça, c'est l'endroit où, par exemple, vous flânez, vous mangez votre sandwich en triangle.
Ouais.
Avec un petit peu de thé, puisque vous êtes fan de thé. Vous en avez amené d'ailleurs.
Ouais, tout à fait.
C'est du thé comment ?
Ah, mais il y a un thé sympa qui vient de chez Harrods au chocolat. Un thé au chocolat, c'est assez surprenant, mais c'est pas mauvais du tout. Il y a un thé classique, un Darjeeling de chez, je vais pas donner la marque, si elle est Arne & Sons. Et il y a un thé pour l'après-midi, un afternoon tea.
Et vous êtes afternoon tea, breakfast tea,
tout à fait. Afternoon tea surtout. Ouais, c'est un plaisir qu'on s'offre à chaque fois qu'on va à Londres. On a fait de très bons afternoon tea dans de très très beaux endroits. Ça équivaut à un repas d'ailleurs. On ne soupe plus après avoir fait un afternoon tea.
Ah oui, parce qu'on mange évidemment plein de choses.
C'est copieux, ouais, tout à fait. Mais c'est une ambiance. De nouveau, c'est plus que prendre une tasse de thé ou manger un sandwich ou une pâtisserie. C'est une ambiance.
C'est un brunch de l'après-midi.
C'est un brunch de l'après-midi, mais voilà, il y a toute une ambiance qui va autour, une espèce de rituel, la manière de servir le thé. Enfin voilà.
Vous êtes fan de lecture.
Ouais.
Vous logez avec Alida du côté de, pas loin en tout cas, du British Museum.
Oui, souvent, très souvent, dans un campus universitaire. En fait, c'est pas vraiment un campus universitaire, ça s'appelle le Good Enough Club. C'est un hébergement qui a été créé pour les étudiants qui ne trouvaient pas de place dans les campus universitaires, justement.
D'accord. Et bien justement, comme vous n'êtes pas loin du British Museum, évidemment vous êtes allé vous perdre là également avec Alida, votre dulcinée italienne, et vous avez acheté un imposant objet que vous avez posé sur notre table. Qu'est-ce que c'est quoi ?
Et bien c'est simplement l'intégrale des aventures de Sherlock Holmes, donc je suis grand fan de littérature anglaise, Sherlock Holmes évidemment, mais bien d'autres, hein. Agatha Christie aussi, mais la littérature plus classique, Daphné du Maurier, ou Marie Shelley, Bram Stoker, hein, tout des choses qui font les grands classiques de la littérature anglaise, mais Sherlock Holmes a vraiment ma préférence, et en me baladant dans le British Museum, dans la librairie au centre, dans la rotonde du British Museum, je suis tombé sur cette intégrale que j'ai voulu et que j'ai acheté.
Évidemment, c'est un des monuments de la culture et de l'histoire britannique. Et donc ça, vous allez le lire par exemple dans un parc ou sur un square. Ça donne plutôt ceci, c'est le moment où Sherlock et Watson vont se rencontrer, ils ne se sont pas encore rencontrés, et on a là, dans ces quelques lignes, le pédigré de Watson. En 1878, reçu médecin à l'université de Londres, je me rendis à Netley pour suivre les cours prescrits aux chirurgiens de l'armée, et là je complétais mes études. On me désigna ensuite comme aide-major pour le 5e régiment de fusiliers de Northumberland, en garnison aux Indes. Avant que j'eusse pu le rejoindre, la seconde guerre de l'Afghanistan avait éclaté. En débarquant à Bombay, j'appris que mon corps d'armée s'était engagé dans les défilés. Il avait même poussé très avant en territoire ennemi. À l'exemple de plusieurs autres officiers dans mon cas, je partis à sa poursuite aussitôt. Et je parvins sans encombre à Kandahar, où il stationnait. J'entrai immédiatement en fonction. Si la campagne procura des décorations et de l'avancement à certains, à moi, elle n'apporta que déboires et malheurs. On me détacha de ma brigade pour m'adjoindre au régiment de Berkshire. Ainsi, je participais à la fatale bataille de Maiwand. Une balle m'atteignit à l'épaule. Elle fracassa l'os et frôla l'artère sous-clavière. Je n'échappai au sanguinaire Ghazi que par le dévouement et le courage de mon ordonnance, Murray. Il me jeta en travers d'un cheval de bas et put me ramener dans nos lignes. Vous avez vu, Olivier Mock, la série Sherlock, la dernière,
ouais,
avec Benedict Cumberbatch.
Ouais, elle est extraordinaire. Pour moi, c'est la mieux adaptée de l'univers de Conan Doyle.
Et ben voilà, on était dans votre tête, quelque part dans un parc. Là, on a mis une ambiance parc. Bonne ambiance parc, ouais. Mais ça aurait pu être aussi sur un square. Vous parvenez à lire sur un square, vous?
Ouais, pas sur un square, dans un square. Russell Square, qui est juste derrière le British Museum. Donc c'est vraiment le quartier dans lequel on aime se perdre dans Londres. C'est vraiment, je veux dire, notre quartier. Si j'avais la chance d'habiter à Londres, ce serait dans ce quartier, parce que je l'apprécie énormément, je le connais, il est très vivant.
Ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à un quartier, justement, l'inverse d'un quartier touristique. Donc clairement, même s'il y a le British Museum, dès que vous quittez un petit peu les alentours du British Museum, vous rentrez dans un quartier de vie, dans un quartier de londonien, avec ses petits magasins, avec ses petits restos sympas, avec la vie de tous les jours, la vie quotidienne de Londres. Ce qu'on cherche quand on va à Londres, on ne cherche pas vraiment le plaisir touristique, on cherche vraiment de vivre comme des londoniens pendant quelques temps.
Alors on a l'impression que vous ne lisez que de la littérature britannique.
En grande partie, je dirais, ouais, 80 à 90% de ce que je lis est de la littérature britannique, ouais. Ben non, il y a d'autres choses, mais voilà, j'aime beaucoup les classiques de la littérature anglaise.
Bon, alors avec tous ces ingrédients, musée, littérature, parc, street food, est-ce qu'Alida a rapidement craqué?
Oui, mais déjà avec les chaussures, ça avait été un bon point. Le musée aussi, d'autant que nous avions été à Paris un petit peu avant et qu'elle n'avait pas vraiment apprécié le Louvre en tant qu'endroit. C'était pas un musée qui l'avait vraiment séduit, contrairement au musée d'Orsay, par exemple. Et donc, elle était assez réticente au British Museum. Mais par contre, là, il y a eu un coup de foudre aussi pour le British Museum et pour ses collections, notamment les momies. On en parlait tout à l'heure dans la carte postale. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une grande aile qui est consacrée à la culture asiatique, qui est fabuleuse.
On est avec vous à Londres ce matin encore. Olivier Mock, c'est l'occasion pour nous de faire plein de musées. Le British Museum, il ne faut pas y aller une fois, il faut y aller mille fois.
Ouais.
On va donc encore se perdre dans ce quartier du British Museum, puisque c'est votre quartier et que vous y retournez à chaque fois que vous emmenez Alida là-bas. Juste le temps de se mettre dans les oreilles. London de Benjamin Clementine.
Now as he sits on the back of this grey caravan, tomorrow he'll probably be jumping the barriers with a bottle in his hand. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, walk out the door with her, he could see everyone. Dressed in black, her glasses seemed too far to fit. She said, look at you, look at you, your game is over. Your cup is full, your cup is full. Stop wasting time praying for more exposure. It is obvious that you're trying, and it's dubious, double you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all you. Why are you denying the truth? I might be boring you, he said. Though it's not clear as morning dew. When my ways are not happening, I won't underestimate who I am. Capable of becoming.
History will be made today is written boldly on his face. So clear you can hardly miss it.
London, Benjamin Clementine, album Cornerstone en 2013. Tout ça pour parler de Londres.
Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia, profitez-en aussi sur Krefel.be.
Krefel. Les meilleurs prix, service
compris. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice.
Aujourd'hui, on va travailler les doigts. On prend le tube de crème solaire et on presse bien fort avec les doigts et on étale de haut en bas. Et 1 et 2, on fait des ronds et 3 et 4, allez, on en met bien partout.
Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement.
C'est la folie des soldes chez MediaMart sur le plus grand assortiment de Belgique. Pendant les soldes, vous pouvez commander en ligne, venir chercher et payer vos achats en magasin ou les faire livrer gratuitement. Conditions sur MediaMart.be. MediaMart, je ne suis pas fou.
La première présente.
Vous n'étiez pas à Cannes ? Qu'à cela ne tienne.
Du 4 au 10 juillet, la Cinémathèque et Flaget au Studio 5 accueillent une sélection de la quinzaine des réalisateurs.
Au programme, des auteurs nouveaux venus et des réalisateurs confirmés.
Info, cinémathèque.be.
Avec Alibre.
Cinéma, Cinémathèque.
La 3, en télé.
Fenêtre sur Doc.
L'amour du risque, de l'aventure.
Des documentaires inédits pour sortir des sentiers battus.
Se priver un peu, crever un peu pour mieux vivre après.
Fenêtre sur Doc, chaque jeudi de l'été sur la 3.
Globe Crocker
sur la première.
Et pour parler de Londres avec vous, Olivier Mock, puisque vous êtes devenu expert en londonderie, depuis que vous vous êtes mis en tête de séduire Alida et de la convaincre, la belle italienne, que Londres avait beaucoup d'intérêt, ça commence à venir. Hein, elle a trouvé chaussures à son pied là-bas, elle a trouvé des musées qui l'intéressaient, et on s'est baladé dans quelques quartiers avec vous. Merci, on va en changer maintenant, et on va aller du côté de South Kensington. Alors, on parlait de thé tout à l'heure, y a pas mal de chouettes enseignes dans ce coin-là, et il y a des incontournables de la culture british.
Ouais, notamment un grand magasin très très célèbre qui est plus qu'un magasin, on parle d'Harrods évidemment. C'était une dernière arme de séduction, je pense, la première fois.
C'était un arsenal que vous aviez.
Exact. Mais je suis prêt à tout pour elle. C'était l'estomac, il fallait passer par l'estomac aussi, et les biscuits notamment, donc les biscuits de chez Harrods, pas seulement ceux de chez Harrods, mais les shortbreads notamment, ces petits biscuits sablés typiquement anglais et écossais.
Alors justement, je vous aperçois à peine derrière trois énormes colonnes. Qu'est-ce que ce sont que ces boîtes métalliques ?
Eh bien, ce sont des boîtes de biscuits. Donc, les Anglais sont spécialisés dans le biscuit sec de tout type. Mais en plus de la qualité du biscuit, ben, ils ajoutent le packaging. C'est dans certains magasins, je pense à Harrods, mais on peut citer Fortnum & Mason, Selfridge aussi. Eh bien, le packaging a autant d'importance que le contenant. Et les deux sont à la hauteur l'un de l'autre. Donc, autant le packaging est beau, autant le biscuit est bon.
Mais pourquoi nous, on n'a pas des si belles boîtes de biscuits ?
Ça, j'en ai aucune idée. On peut en trouver quelques-unes de belles, mais c'est plus un esprit traditionnel. Avant aussi, dans les années 50-60, ici en Belgique et dans d'autres pays, les biscuits étaient dans des boîtes métalliques, parfois avec la famille royale dessus. On en trouve toujours d'ailleurs, mais maintenant, bien, quand on les trouve dans des boîtes métalliques, ce sont des boîtes vraiment classique, bleu, en métal,
sans
rouge.
Sans beaucoup d'intérêt, alors que là, elles sont en relief, sont colorées.
C'est un véritable objet de collection pour ceux qui aiment les belles choses.
Vous collectionnez ?
Je collectionne les boîtes de biscuits anglais, oui.
Un chiffre ?
Oh, je n'en ai aucune idée, j'ai jamais passé mon temps à les compter. Une armoire pleine, en tout cas. Une vitrine pleine.
Et là, elles n'ont pas du tout la forme carrée qu'on pourrait supposer. Elles sont très longues, on dirait des boîtes à spaghettis.
Oui, on peut effectivement s'en servir pour mettre des spaghettis dedans. Donc, elles sont très, 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 très hautes. Elles font une petite trentaine de centimètres de hauteur. Voilà, on peut s'en servir pour mettre des choses dedans. Moi, je m'en sers pour décorer.
Là, on se régale entre le thé, les petits biscuits sablés, machin, très très bien. On est dans South Kensington, s'en passe des choses là-bas. Et il n'y a pas que Harrods, hein. Il n'y a pas que Harrods.
Non, il n'y a pas que Harrods, il y a pas mal de musées aussi. Ben, on y revient, hein. Il y a le Victoria and Albert Museum, le musée des sciences qui est fabuleux, le musée de... comment s'appelle-t-il ce musée, la Saatchi Gallery, je ne retombais pas sur le nom, la Saatchi Gallery, avec une fabuleuse expo sur les Rolling Stones pour l'instant. Si vous passez par Londres, allez voir l'expo sur les Rolling Stones, elle est sublime.
Mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces musées anglais et plutôt londoniens ?
Une scénographie. En ouais. fait, quand vous entrez dans un musée anglais, vous êtes pris par la main, on vous raconte une histoire, justement. Je pense que c'est très important de raconter des histoires aux gens. Les musées anglais n'ont rien de rébarbatif comme certains musées qu'on peut connaître, pas forcément chez nous, mais partout ailleurs. J'en ai fait aussi en France. Eh bien, ce sont des endroits où des toiles sont accrochées au mur, où des statues sont déposées sur le sol et protégées. On ne peut pas trop les approcher, sinon ça sonne. Eh bien, quand vous entrez dans un musée anglais, il y a un exemple fabuleux pour découvrir Londres, c'est le Museum of London, qui raconte toute l'histoire de Londres depuis la préhistoire jusqu'aux Jeux Olympiques de 2012. Eh bien, wow. tout est mis en scène. Quand on parle de l'époque victorienne, vous rentrez dans l'époque victorienne, vous rentrez dans un magasin de l'époque victorienne, vous montez dans une calèche de l'époque victorienne, donc vous vivez l'époque victorienne et vous vivez le Swinging London par la suite, vous vivez le grand incendie de Londres comme si vous y étiez, vous êtes dans une salle noire avec un écran qui projette l'incendie, il fait très chaud dans la salle, donc vous êtes vraiment, vraiment mis en situation, il y a une véritable scénographie de la culture à Londres.
Ils sont fortiches.
Ils sont très fortiches.
Ils sont fortiches. Il y a, à côté de tous ces musées de Kensington, de South Kensington, il y a aussi le Royal Albert Hall.
Oui, le Royal Albert Hall.
Vous avez fait ça ?
On n'y est pas encore passé, c'est au programme. Oui, tout à fait. Peut-être cet été, peut-être à Noël.
Vous êtes passé devant ?
Devant, bien entendu.
Est-ce qu'on pourrait avoir une petite... photographie de l'endroit.
C'est un grand bâtiment rond, arrondi en fait. C'est une espèce de tourelle posée au milieu d'un pâté de maison. Et c'est un bâtiment qui vit puisqu'on y enregistre beaucoup de concerts, mais aussi beaucoup d'émissions de télévision. c'est un bâtiment. Vous pouvez passer devant à n'importe quel moment de la journée. Il y a de l'animation, il y a de la vie, des gens qui entrent, des gens qui sortent. Il y a un petit musée de l'histoire de la télévision aussi dedans, qui est pas très très grand, mais qui vaut quand même la peine d'être vu, paraît-il. Donc voilà, c'est au programme, mais on n'a pas encore l'occasion de le faire. On me demande souvent si je ne suis pas lassé de Londres. Ben non, parce que je n'ai pas encore fait le quart de la moitié du dixième de ce qu'on peut y faire.
Et vous le faites en séjour comme ça de 3 jours à chaque fois ?
Non. 3 jours, c'était la première fois. On s'est aperçu que ce n'était pas du tout suffisant. Donc maintenant, on part au minimum pour 6 jours, au maximum pour 10 jours. Donc entre 6 et 10 jours à chaque fois.
On rappelle qu'au départ, le défi entre Alida, votre amoureuse italienne, et vous, c'était de la convaincre, elle, de l'intérêt de Londres.
Ouais.
Et il y avait un enjeu.
Il y avait un enjeu, c'était...
Il y a un échange, en tout cas.
C'était, un échange. On allait passer quelques jours en Italie, dans sa famille, puisqu'elle a encore beaucoup de famille là-bas, et puis on repartait sur Londres. Mais le véritable enjeu, pour moi, il était sous-jacent, c'était de lui faire aimer Londres pour qu'on y retourne, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé.
Et c'est ce qui s'est passé à quel moment ? Est-ce que c'était en même temps que vous, en 2008, ou il a fallu quand même 3-4 voyages ?
Ça s'est vraiment passé dans le train du retour. Donc après ces 3 premiers jours en 2008, elle me dit « on aurait quand même dû rester plus longtemps ». Je lui dis « on peut revenir ». On peut revenir. Et elle m'a dit...
Oh, la mauvaise foi.
Banco. Oui, on peut dire ça. Banco, oui. Et puis on y retournait l'année suivante.
Bon, alors je m'inquiète un petit peu pour votre santé, parce que je vois également un petit ours en plus sur cette table. Qu'est-ce que c'est ?
C'est Paddington. C'est aussi une figure incontournable de Londres. Littérature anglaise, mais littérature enfantine. Je suis tombé dedans quand j'étais petit.
Et alors, c'est aussi dans le South Kensington ?
C'est juste au-dessus de South Kensington, le quartier de Paddington, c'est le quartier de la gare de Paddington. D'ailleurs, il porte ce nom parce qu'il est arrivé, c'est un ours qui est arrivé, je ne sais pas si vous connaissez un peu les aventures de Paddington, c'est un ours qui vient de la forêt... D'une forêt d'Amérique du Sud, et sa famille est exterminée, donc il se retrouve à Londres comme passager clandestin, et il débarque en Angleterre d'abord à Liverpool, si ma mémoire est bonne, et puis en train à Londres, dans la gare de Paddington, et donc il prend le nom de Paddington.
Mais est-ce qu'il a un rapport avec Teddy ?
Non, absolument pas.
Non, absolument pas. Il ressemble un petit peu.
Eh ben non, 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 non. C'est vraiment un personnage de la littérature enfantine anglaise qui a été traduit dans quantité de langues, et notamment en français, puisqu'on le trouvait ici en Belgique. Et voilà.
Il y a quelqu'un d'autre que vous, Olivier Mauque, qui fait office d'expert en londonnerie. C'est un certain Serge Gainsbourg avec Initial BB.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid, la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est potée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de germain dans les cheveux. Clochette d'argent de ses paniers. Agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot, Almeria.
Initials BB, Serge Gainsbourg, en 1968, en voilà un qui connaissait bien Londres aussi. Londres où nous sommes ce matin en votre compagnie, Olivier Mock. Et on fait encore un tout petit tour, s'il vous plaît, encore un petit tour.
La première,
11h midi,
Globe Crocker avec Benjamin Leupart.
Et surtout avec vous donc, Olivier Mock, nous sommes à Londres. Est-ce qu'on peut dire que l'affaire est dans le sac avec Alida, alors, au terme de ce premier voyage ?
Je pense qu'on peut le dire, puisqu'on y est retourné, j'ai arrêté de compter, mais 17 ou 18 fois depuis, donc on y va.
C'est plus qu'une fois par an, hein ?
On y va 3 à 4 fois par an, encore cette année, ben, on a déjà deux voyages qui sont prévus ici au mois d'août, donc dans les jours qui viennent, et puis à Noël.
C'est très bonne idée, parce que ça veut dire que vous connaissez les 4 saisons de Londres.
Ouais.
C'est laquelle la meilleure ?
J'hésite entre le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. C'est difficile de les départager.
Merci.
Ce sont les 4 meilleurs, à mon avis, pour y aller. Le printemps, parce que d'abord, les arbres sont en fleurs. Il y a des quartiers où ça sent le lilas. Bloomsbury, notamment, est bourré de lilas. Il y a une odeur de lilas dans les rues quand on se balade. C'est hyper agréable. L'été, c'est sympa parce qu'il y a souvent un peu moins de monde et il ne fait pas trop chaud pour quand on n'a pas envie. Il fait souvent très beau, par contre, mais pas très chaud. Je dois quand même dire que j'ai un coup de cœur pour les fêtes de fin d'année. Ça fait 5 ans maintenant qu'on passe les fêtes de Noël à Londres, dans une véritable ambiance de Noël. Évidemment, il faut aimer l'ambiance de Noël, ça
mais
c'est clair.
Ça se fait en famille, ça.
Oui, ça se fait en famille. Mais
donc vous êtes trouvé une famille là-bas?
Non.
La
famille est réduite à sa plus simple expression, ma chérie et moi.
D'accord. Et voilà. Alors, vous la jouez à la British avec les crackers et les trucs comme ça ?
On se la joue vraiment à la British, en profitant vraiment de l'ambiance, en allant manger un petit bout de Noël dans un petit resto sympa, avec les crackers et tout sur la table, parce que c'est une tradition qu'on trouve partout. Mais c'est surtout le fait d'arriver quelques jours avant Noël pour vraiment se baigner dans l'ambiance, les décorations, les chandrues. Il y a énormément de chandrues, de chorales dans les rues qui chantent des chants de Noël.
Alors,
quand on parle de chorales, on n'imagine pas forcément les chorales très guindées. On a écouté sur le Marble Arch, le haut d'Oxford Street, entre Oxford Street et Hyde Park, Marble Arch, une chorale qui chantait des chants de Noël en reggae. C'était fabuleux.
Excellent. Très très bien, ça.
Oui, c'était vraiment un grand moment.
Est-ce que vous diriez que cette intuition que vous avez eue un petit peu avant 2008 de dire tiens, j'irai bien moi à Londres à nouveau avec ma chérie, ça a changé votre vie ?
Je pense que oui, parce que on a vraiment découvert un endroit. C'est simple, quand on me demande qu'est-ce que tu fais pour les vacances, je dis je rentre à la maison. Donc je rentre à la maison, donc je vais à Londres. Je me sens vraiment chez moi à Londres pour tout ce qui fait la ville, pour la mentalité, l'ambiance, les gens qui sont toujours prêts à venir vous tendre la main. Nous avons dépanné plusieurs fois des gens qui étaient perdus dans Londres, mais au début où nous étions, les gens nous ont dépanné. C'est impossible à Londres de sortir un plan sans que quelqu'un nous vous tombe dessus en vous disant « je peux vous aider, vous êtes perdu, vous désirez aller quelque part ?» Et on vous guide vraiment. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on vous guide, on a parlé tantôt je crois qu'on a utilisé le terme multiculturalité, moi je préfère le terme interculturalité parce qu'il y a de vraies relations entre les différentes cultures à Londres.
Et en même temps, chaque quartier a son identité.
Chaque quartier a son identité, effectivement, mais il y a des échanges fréquents. Et alors, vous ne pouvez pas ne pas tomber sur quelqu'un qui parle votre langue à Londres parce qu'il y a une quantité de langues qui sont parlées. Vous rentrez dans un café, vous entendez parler français, espagnol, italien, anglais forcément, chinois.
Mais il faut dire que maintenant, avec votre look, parce que évidemment c'est de la radio, donc il faut que j'écrive, vous avez des chaussures roses, vous avez une marinière et un perfecto, vous êtes le londonien parfait.
Je ne sais pas si je suis le londonien parfait, en tout cas tout ce que je porte sur le dos, à l'exception de la marinière qui est faite par ma femme, dont c'est le métier, vient de Londres, effectivement. Donc je m'habille énormément à Londres. Ouais.
Est-ce que vous n'êtes pas à deux doigts d'aller vous installer à Londres, vous ?
N'était la bulle immobilière qui est hors de prix, ce serait déjà fait.
Ah, vous avez vu, hein, vous disiez tout à l'heure que Londres n'est pas si cher que ça, mais la bulle quand même...
Elle est chère pour l'immobilier et les déplacements en métro. Ça, c'est horriblement cher, ouais.
Alors, vous donniez un excellent bon plan pour les gens qui voudraient connaître Londres de l'intérieur sans, pour cela, se saigner les veines. C'était de loger dans les universités pendant les congés.
Tout à fait.
Est-ce que vous auriez d'autres bons plans du genre ?
Ouais, il y a déjà le bon plan de pas rentrer dans les restos touristiques qui sont soit bon marché et de très mauvaise qualité, soit d'excellente qualité mais hors de prix. C'est de sortir un petit peu de toutes les rues touristiques, de rentrer un petit peu dans les rues adjacentes et de trouver des restos sympas, notamment tout ce qui est cuisine indienne. À Londres, on est servi si on aime ce genre de cuisine. Mais il y a aussi le fait, tout simplement, de vivre dans les parcs comme les Anglais, c'est-à-dire que vous entrez dans des supérettes, il y a des petits magasins sympas, des épiceries de quartier où vous pouvez trouver des choses vraiment très intéressantes pour trois fois rien et aller manger dans le parc, quoi. Pique-niquer dans le parc plutôt que d'aller manger dans un fast-food. Voilà.
J'ai lu que vous étiez un adepte du slow life.
Ouais, tout à fait. Prendre le temps de vivre, effectivement. Quand on va à Londres maintenant, les premières fois où on y allait, effectivement, la toute première fois, dans les trois jours, il fallait faire entrer un maximum de choses, toujours dans cet esprit de pouvoir y retourner par la suite. Mais maintenant, on aime prendre le temps de vivre, le temps de se poser, de se mettre en terrasse pour aller boire un café.
Mais il y a donc moyen de vivre calmement, en slow life, dans une ville 10 fois plus grande que Paris.
Ouais, tout à fait. Il suffit de prendre le temps et de pas se dire... Maintenant, on a cet avantage de savoir que de toute manière, ce qu'on ne fait pas, on le fera la prochaine fois. Je vous dis, si on a deux voyages qui sont prévus en août et à Noël, on n'a pas fait de programme. On ne se dit pas en août, il faut qu'on fasse ça, ça, ça et ça. On verra. On verra en fonction du temps, on verra en fonction de ce qu'on a envie de faire le matin même, de ce qu'on va trouver. On ne s'est pas dit, tiens, on va faire cette expo absolument. Si on n'a pas le temps de la faire ou si on n'a pas le temps d'aller dans tel musée, on ira la prochaine fois.
Donc, vous parliez du quartier où vous flânez souvent, le Bloomsbury. Là. Est-ce que c'est votre quartier préféré, ça ?
Ouais, franchement, ouais, c'est un quartier vraiment dans lequel je me sens chez moi, parce qu'il d'abord il est chargé d'histoire. Il y a énormément d'écrivains qui ont vécu là. Je pense à James Matthew Barry, l'auteur de Peter Pan, ou Charles Dickens. Donc voilà, c'est un quartier que j'aime beaucoup. Il y a une vraie vie dedans, mais la vie de tous les jours.
Vous avez donc rencontré une ville et vous en êtes tombé amoureux.
Ah oui, on peut le dire.
Thank you, Oliver Mock.
You're welcome.
Merci de nous avoir transmis votre passion tous azimuts pour Londres. Londres qui non seulement rythme désormais votre vie, mais aussi celle de votre épouse Alida. Best wishes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux en termes de voyage, à part les deux qui sont prévus pour Londres,
hein ? De continuer à aller à Londres plein de fois et de le découvrir.
Ça me paraît bien parti.
Peut-être l'Irlande.
Eh bien, qui sait ? À bientôt peut-être. Demain, on croque un autre bout du monde puisqu'on file vers l'Asie dans Globe Crocker pour une ville Bourdon, Saïgon, en compagnie d'un voyageur, chercheur et médecin. Les habitations tubes, le Mékong, la rivière Saïgon, voilà le quotidien en pointillé qu'il vit depuis 5 ans entre la Belgique et le Vietnam. Olivier Michel sera notre guide. Pluie ou mousson ? Canicule, on ne sait pas. Dans un instant, la météo, juste avant le forum de midi. À demain pour Globe Crocker, que vous soyez ici ou ailleurs.
La première.
Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express d'italien. Tu peux me passer la crème solaire?
Mi daresti la crema solare?
Je t'enduis le dos?
Te la spalmo sulla schiena?
Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif.
Avec nous, l'euro est bleu, blanc, but! Vivez les demi-finales de l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Allemagne-France, à suivre en direct ce jeudi sur la 2, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous.
La première présente l'exposition Homo Migratus. L'homme migre depuis la nuit des temps. Homo Migratus fait le point sur ce phénomène millénaire pour mieux comprendre la migration humaine et le brassage des cultures. Une exposition pour tous au musée de la Vie Wallonne à Liège. Entrée gratuite. Info viewallonne.be, une initiative du service culture de la province de Liège avec le journal Le Soir.
La météo.
Bonne journée à tous, le soleil s'impose déjà. On attend aujourd'hui de 17 à 21 degrés, peut-être localement un petit peu plus, on a moins de vent que les jours précédents et donc les sensations sont déjà meilleures et ce n'est qu'un début puisque cela se confirme pour demain et après-demain. Le soleil sera toujours présent, les températures vont monter, on attend 19 à 24 degrés demain et déjà 20 à 25 pour vendredi. Il fera encore plus chaud le week-end et il faudra tout simplement surveiller le risque de voir un orage se développer localement en soirée, mais les températures sur le centre du pays dépasseront largement les 25 degrés.
La Chimay dorée, caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été.
Chimay, les accords bières et fromages depuis 1876.